Ok, bon, on va commencer cette conférence. J'ai donc le plaisir d'accueillir André Thibault, professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire de francophonie, qui est ici dans le cadre d'un colloque que nous organisons à l'Université de Poitiers, consacré à l'écriture. Une comparaison des apprentissages et des incidences de ces apprentissages entre la France et le Québec. Et André Thibault, qui donnera une conférence demain dans le cadre de ce colloque, a accepté de donner une conférence différente aujourd'hui, une conférence grand public. André Thibault est québécois, il a fait ses études supérieures en France, je crois,
Suisse.
en Suisse, fait de la recherche en Suisse. Et donc professeur à la Sorbonne à Paris. Donc. Voilà. Cette association avec Mendès France est importante aussi. Il y a eu au niveau d'actualité Poitou-Charentes un numéro spécial comme tous les ans à l'été qui paraît l'été. Et le numéro de l'été 2008 était consacré entièrement au Québec. Une revue superbe avec une iconographie de grande, grande qualité. Et je suis persuadé que nos collègues canadiens, québécois qui sont au colloque, qui avaient dans la petite valisette qui leur était remise cette revue, ont dû y trouver aussi beaucoup d'émotions. Et André Thibault a fait un article dans cette revue. On accueille un des co-responsables scientifiques de ce colloque. C'est bien d'être venu. Donc je vais céder la parole à André pour, il va voir, une heure ou un peu plus.
Merci.
Merci.
Et merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Ça me fait plaisir en tant que Québécois de venir parler ici à Poitiers en raison évidemment des liens historiques qui nous unissent. Donc j'ai intitulé l'exposé La langue de Champlain de l'Ouest français à la Nouvelle-France. La langue de Champlain est à comprendre ici dans un sens générique, évidemment. Je veux parler de la langue qui était pratiquée en France à l'époque coloniale, en particulier à l'époque de Champlain, mais en fait pendant aussi tout le XVIIe siècle. Cette langue qui s'est exportée en Nouvelle-France et qui, fatalement, a subi des évolutions, a maintenu aussi certaines choses qui, entre-temps, étaient disparues ailleurs. Souvent, les Français me demandent, mais le français québécois, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si bizarre? D'où ça vient tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu ensemble ce soir. Donc, les particularités du français québécois, si on dresse si on fait le tableau contrasté du français de France et du français québécois tels qu'ils sont aujourd'hui, ces particularités appartiennent à des catégories assez variées. On ne peut pas, on ne doit surtout pas tout mettre dans le même chapeau. Il y a différentes choses. Du point de vue de l'origine historique de ces caractéristiques, on trouve d'une part ce que l'on appelle des archaïsmes, ou si vous voulez, ce sont des archaïsmes du point de vue français, ce sont des maintiens du point de vue québécois, c'est-à-dire des mots qui étaient en usage, qui faisaient partie du français général à l'époque coloniale et qui, entre-temps, sont lentement ou rapidement tombés en désuétude en France, mais qu'on a conservés chez nous. Ensuite, il y a également des mots qui, déjà à l'époque coloniale, étaient régionaux en France, en particulier bien sûr des mots de l'Ouest, du Grand Ouest, puisque ce sont surtout des colons de l'Ouest qui sont allés coloniser la Nouvelle-France. Des mots donc étaient régionaux à l'époque et ont pris racine, hein, se sont installés dans l'usage dans les Français d'outre-mer et en particulier en Nouvelle-France. Ce n'est pas tout, il n'y a pas que des archaïsmes, il n'y a pas que des régionalismes, il y a aussi, bien sûr, c'est le cas de toute langue vivante, il y a aussi, bien sûr, des innovations. Et ces innovations peuvent classer en différentes catégories. D'une part, bien sûr, des emprunts à d'autres langues. Alors, dans le contexte nord-américain, on va voir des exemples d'emprunts à, bien sûr, des langues amérindiennes. plusieurs emprunts, plusieurs de ces emprunts font partie du français général, mais quelques-uns d'entre eux sont limités aujourd'hui au français québécois. Et bien sûr, on va voir quelques exemples, il y en a énormément, d'emprunts à l'anglais, qui est bien sûr la langue avec laquelle le français en Amérique du Nord se trouve massivement en contact depuis la conquête. Ça, c'est une chose, les emprunts, mais parmi les innovations, il y a bien sûr aussi, en plus des emprunts, il y a bien sûr aussi des créations propres, c'est-à-dire des innovations dues au génie propre de la langue, que l'on distinguera selon deux catégories. D'une part, des innovations formelles, des formes nouvelles, des mots qui, dans leur forme même, n'existaient pas auparavant. Et d'autre part, des néologismes seulement sémantiques, c'est-à-dire des mots dont la forme existe autant en français de France qu'en français québécois, mais qui ont acquis un sens nouveau ou des sens nouveaux en français québécois. Alors, le classement qu'on vient de voir, c'est un classement, si vous voulez, historique. Il faut distinguer aussi une autre façon de classer les particularités du français québécois, qui est une classification, elle, pas du tout historique, mais tout simplement de nature. Quelle est la nature des particularités du français québécois par rapport au français de France? Et là, encore une fois, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Il y a des québécismes qui sont proprement formels, d'autres sont sémantiques, quand, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est que le sens du mot qui est différent. Il y a aussi la grammaire qui peut être touchée, on va voir des exemples tout à l'heure, et il y a une catégorie de québécisme un petit peu plus subtile, un petit peu plus difficile à saisir, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui existent autant en France qu'au Québec, avec le même sens, avec la même forme, mais qui n'ont pas nécessairement exactement la même connotation ou la même fréquence. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Alors, si vous croisez ces deux axes, l'axe historique et l'axe, disons, synchronique, hein, c'est-à-dire d'une part sur l'axe vertical ici, l'origine de ces québécismes, et d'autre part sur l'axe horizontal, la nature, vous obtenez une grille dans laquelle, normalement, tous les phénomènes devraient pouvoir trouver leur place. Peut y arriver que des cases restent vides. On va voir maintenant, en prenant les catégories de l'axe vertical, l'axe historique, toutes ces catégories une après l'autre, en commençant par les archaïsmes. Alors, des archaïsmes en français québécois, par rapport, je répète encore une fois que archaïsme est un terme relatif, donc c'est par rapport à l'usage de France que l'on dit que ce sont des archaïsmes. Si la France était tombée dans un grand trou et que la France n'existait plus, ça ne serait pas des archaïsmes dans l'absolu, mais ce sont des archaïsmes par rapport aux français de France. Donc il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui ne touchent que la phonétique, la prononciation de certains sons en particulier. Il y en a qui sont, j'ai appelé ça ici, lexématiques, c'est-à-dire le lexème, le mot, c'est le mot tout entier, c'est pas seulement la prononciation de tel ou tel son, c'est le mot tout entier qui est particulier au français québécois. Il y en a qui touchent plusieurs mots, qui touchent des expressions entières, on parle dans ce cas-là d'archaïsme phraséologique. Quand ce n'est que le sens d'un mot qui est touché, archaïsme sémantique, je le disais tout à l'heure, quand c'est le fonctionnement grammatical, archaïsme grammatico, et enfin archaïsme de statut. Donc toutes ces catégories sont représentées. Commençons par des exemples d'archaïsme phonétique. Alors bien sûr, il y a des tas de traits phonétiques du français québécois, pas tous, hein, mais de nombreux traits phonétiques du français québécois qui s'expliquent tout simplement comme des survivances de choses qui, entre-temps, sont disparues, peut-être pas entièrement disparues en France, ça peut très bien s'être maintenu en région, mais qui sont, disons, disparues de la norme, on va dire ça comme ça. Donc, si vous allez au Québec, vous allez entendre, bien sûr, à côté des prononciations standards « moi »,« toi », noir, etc. Vous allez aussi, vous êtes susceptible d'entendre également en français québécois l'ancienne prononciation moué, toué. Attention, pas pour tous les mots qui s'écrivent avec oi, ça s'est surtout fossilisé avec les pronoms personnels moué, toué. On ne dira jamais, par exemple, aujourd'hui au Québec, le roué ou la louée. Ça, c'est impossible, ça n'existe plus. Donc, attention peut-être aux apprentis humoristes français qui auraient envie d'imiter l'accent québécois. En général, c'est assez raté parce que les humoristes français, quand ils essaient d'imiter l'accent québécois, font ce qu'on appelle des extensions indues. Ils remarquent qu'il y a des choses comme ça, moué, toué, et ils l'étendent à tort, à tous les mots que ça pourrait toucher. Donc le OI en fin de mot comme ça, ça ne touche que les pronoms personnels moi et toi. Et encore, bien sûr, il faut préciser, avec une valeur sociolinguistique particulière. C'est-à-dire que moi et toi, soit c'est l'apanage des classes sociales, disons, défavorisées, soit, si vous l'entendez dans la bouche d'un collègue universitaire, c'est qu'il est vraiment fâché. Si vous dites à quelqu'un de se fermer la gueule, ça se dit « toi, tais-toi ». Ça ne se dit pas « toi, tais-toi ». Il y a comme une sorte d'incohérence pragmatique, là. C'est évidemment, ce sont des prononciations chargées, qui sont marquées stylistiquement et donc, par conséquent, qui sont chargées d'émotivité. Les nasales, vous avez certainement remarqué, si vous avez entendu parler le français québécois, que les nasales du français québécois sont assez différentes de ce que sont devenues les nasales en France aujourd'hui. C'est essentiellement un phénomène aussi archaïque, tout simplement. On n'a rien changé. C'est plutôt en France que la prononciation de ces nasales s'est modifiée au cours des trois derniers siècles. Prenons le « un », là où un Français dira « lapin », un Québécois prononcera « lapin » avec un « un » beaucoup plus fermé. Et ça ressemble un petit peu d'ailleurs au « un » méridional ici en France, à cette différence près que je crois que dans le nord, dans le sud de la France, on l'accompagne d'un petit « ng » à la fin, quelque chose comme « lapin ». Nous, on n'a pas le « g » à la fin, mais on a bel et bien un « un » très fermé, par archaïsme tout simplement. Une autre nasale, la nasale « en », ce qui serait en France « un enfant », ce qui pour un Québécois est comme O-N-F-O-N, enfant, se prononcera en québécois « enfant ». Et même « enfant », ça dépend. Il y a évidemment des différences énormes d'une personne à l'autre, mais ça ne va jamais jusqu'à « en » en français québécois. C'est beaucoup plus central, voire antérieur, pour ceux d'entre vous qui ont des notions de phonétique articulatoire. Un phénomène archaïque, mais qui ne touche pas nécessairement systématiquement tous les mots, c'est le maintien du T final. Et là, on remarque des drôles de chassés-croisés avec la France. Des mots comme « lit » et « bout » peuvent encore aujourd'hui très souvent s'entendre avec le maintien du T final, un « lit » pour un « lit », le « bout » pour le « bout ». Mais inversement, là où les Français disent assez souvent un but, en québécois on dit un but. Le mois d'août, en québécois c'est le mois d'août. Donc ce qui arrive, c'est que dans l'histoire de la langue française, il y a eu une tendance lourde à la chute de ce T final, mais avec des résistances pour certains mots. Et quand on compare le français de France, le français du Québec, ce n'est pas toujours les mêmes mots qui ont retenu le T ou qui l'ont laissé tomber. Dernier trait, il y en aurait d'autres, mais bon, je dois avancer. Dernier trait phonétique, le maintien d'une distinction phonologique qui est encore présentée comme standard par la plupart des dictionnaires ou des manuels en France, même s'il y a probablement plus un très fort pourcentage de Français qui respectent cette opposition phonologique, c'est l'opposition entre le « est bref » et le « est long ». Fête, fête. Bon, je sais qu'en Belgique et en Suisse, par exemple, c'est tout à fait respecté encore, mais en France, c'est quelque chose qui, dans la plupart des régions, est tombé en désuétude. Alors j'en profite pour faire une petite enquête rapide. Ceux d'entre vous qui êtes poitevins ici, est-ce que vous respectez, ne trichez pas, cette distinction? Je vois un nom ici de la tête, les autres, non, pas vraiment. Vous la respectez, vous êtes... J'essaie, oui, voilà. Alors, évidemment, quand on dit j'essaie, c'est l'aveu que ce n'est pas quelque chose, évidemment, de naturel. C'est quelque chose peut-être qu'on a appris à l'école. Curieusement, dans la francophonie d'Europe, c'est plutôt dans l'Est, dans le Nord-Est, que ça survit. Je l'ai dit, la Belgique, la Suisse, une partie de l'Est, du Centre-Est de la France. Les archaïsmes, souvent... se maintiennent justement en périphérie. On dit toujours, oh, les particularités du français québécois, ça vient de l'ouest de la France, ça vient de l'ouest de la France. Quand ce sont des régionalismes de l'ouest français, oui. Quand ce sont des archaïsmes, pas nécessairement. Un archaïsme, ça survit normalement en périphérie, tout simplement. Ça peut survivre aussi loin qu'à La Réunion, dans l'océan Indien. C'est pas une question de provenance des colons. C'est tout simplement une question de survivance en zone périphérique. Alors, il n'y a pas que des sons, il y a des mots en particulier qui sont particulièrement anciens. Donc voilà ici le mot « beurré », avec le sens de « tranche de pain recouverte de beurre ». Alors c'est un mot qui a commencé à être donné par les dictionnaires français comme vieilli à une époque très récente. D'après le DHFQ que je cite ici, que je vais souvent citer parce que c'est une source extrêmement importante pour l'histoire du français québécois, donc le dictionnaire historique du français québécois, DHFQ, on nous dit que c'est un mot qui est attesté depuis le 17e, d'accord, mais qu'il n'est considéré comme vieux ou régional que depuis les années 60. Alors le premier dictionnaire qui donne le mot beurré comme vieilli est le Petit Robert de 1967. Bon, en général, les dictionnaires sont toujours un peu en retard sur l'usage. Si un dictionnaire, pour la première fois, nous dit que c'est vieilli en 1967, ça veut dire que c'est peut-être déjà vieilli en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être un peu plus. Quoi qu'il en soit, au Québec, une beurrée, c'est pas vieilli du tout, du tout, du tout. Une beurrée, c'est un mot absolument normal. Vous en avez donc un exemple ici. Or, l'Abitibi a beaucoup changé. L'époque des héroïques défricheurs trompant leur faim à grande beurrée de mélasse est révolue depuis belle lurette. Beurré est un mot encore tout à fait normal chez nous. J'en profite juste pour faire une petite réclame ici pour cet excellent dictionnaire historique qui ne traite pas un très grand nombre de mots parce que les mots qu'il traite, il les traite vraiment en profondeur. Chaque mot a droit, chacun des mots qui est traité dans le dictionnaire est traité, mais sur plusieurs colonnes avec un luxe de documentation historique. Voilà, ici, j'ai pas pu résister à la tentation de vous montrer une belle citation de Madame de Sévigné qui en utilisait ce mot de beurré. C'est un joli petit bouchon qui nous réjouit fort. Cela n'aura 20 ans que dans 2 ans d'ici. Je voudrais que vous l'eussiez vu les matins manger une beurrée longue comme d'ici à Pâques. Quelle belle expression. Et l'après-dîner, croquer 2 pommes vertes avec du pain bis. Un deuxième exemple d'archaïsme lexématique, donc de mots vieillis, peut-être que vous l'avez déjà remarqué aussi si vous êtes allé au Québec, présentement est absolument banal et normal dans l'usage québécois, et en général, les Québécois ne sont pas du tout conscients que ça ne se dit pas ou que ça ne se dit que très peu en France. Ici, un exemple extrêmement récent, 2 mai 2007, Nadal, présentement le meilleur au monde. Ça peut se trouver dans la presse, il y a des centaines et des milliers d'exemplaires. Alors j'ai une petite référence ici d'un ouvrage, vous m'excuserez, qui a été rédigé en allemand, mais c'est un ouvrage très important, c'est un dictionnaire en 25 volumes, le plus grand, le plus important dictionnaire étymologique de la langue française, qui s'appelle donc en allemand Das Französische Etymologische Wörterbuch, le dictionnaire étymologique du français. C'est pour ça que j'ai vécu en Suisse pendant plusieurs années, parce que j'ai travaillé pendant quelques années pour ce dictionnaire. Donc, qu'est-ce que nous dit ce dictionnaire sur le mot « présentement » Je vous traduis. « Il était critiqué par l'école de Malherbe, mais utilisé par Pascal, Bourg, Sévigné, etc. » Le dictionnaire de Miège, 1677, le tenait même pour préférable à la locution « à présent ». Mais un siècle plus tard, dans le dictionnaire de Féraud, 1788, on nous dit « l'usage a changé ». Donc ça s'est joué à peu près à cette époque-là. En un siècle, ça a basculé. Le mot, entre 1670 et 1780 à peu près, le mot en France est peu à peu sorti de l'usage. Mais il est resté au Québec, puisque bien sûr, 1788, c'est déjà postérieur à la perte de la Nouvelle-France par la France. Et qu'est-ce que nous disent les dictionnaires aujourd'hui? Le NPR 2008, c'est-à-dire le nouveau Petit Robert 2008, nous le donne comme VX, c'est-à-dire vieux, ou régional, en précisant Canada et, étrangement, Afrique. Pour des raisons complètement différentes. L'Afrique n'a évidemment pas été colonisée à la même époque que la Nouvelle-France, mais les élites africaines ont appris le français en lisant la grande littérature française, et bien souvent on trouve curieusement des archaïsmes en français d'Afrique qui n'ont rien à voir avec l'histoire coloniale, parce que l'histoire coloniale est relativement récente, mais qui ont à voir avec la façon dont le français s'est enseigné, donc dont le français a été appris par les élites d'Afrique noire à coup de grande littérature française. Et bien souvent, on remarque hein, chez les locuteurs d'Afrique francophone que des mots qui appartiendraient peut-être à des registres plutôt soutenus ici en France sont employés dans la langue courante ou vice-versa. Juste pour vous prouver que présentement était très fréquent à l'époque, chez Pascal, chez Molière, chez Madame de Sévigné, alors Blaise Pascal, mon père lui dis-je, je remettrai à une autre fois à vous déclarer mon sentiment sur ce passage, et je ne vous dirai présentement autre chose, sinon que, puisque vos maximes sont si utiles et qu'il est si important de les publier, vous devez continuer à m'en instruire. Molière, l'école des femmes, je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Et enfin, Madame de Sévigné, correspondance. Enfin, la mortification est complète et fait voir s'il n'y a plus de péché mortel présentement qui soit si sévèrement puni que celui de paresse. Il y a des accommodements à tous les autres, à celui-là, point de pardon. Donc on voit que c'était un mot, tout ce qu'il y avait de plus banal à l'époque où justement, 1657, 1663, 1677, à l'époque où justement les plus forts contingents de colons arrivaient pour s'installer en Nouvelle-France. Des exemples maintenant d'archaïsme phraséologique, hein, ça ne touche pas nécessairement que des mots isolés, mais aussi des expressions. Le fameux « jusqu'à tant que vous connaissez peut-être parce qu'il est connu dans plusieurs zones de l'Ouest français, avec le sens bien sûr tout simplement de « jusqu'à ce que ». Alors c'est absolument banal encore aujourd'hui en français québécois, même à l'écrit. D'ailleurs, de temps en temps, vous allez trouver écrit jusqu'à tant, T-E-M-P-S, mais évidemment, il s'agit de tant, T-A-N-T. Donc, un exemple tiré d'Internet. M'est-il possible d'avoir un travail à temps partiel en dehors de la financière Sun Life jusqu'à tant que mon entreprise prenne de l'envergure? Alors, c'est attesté évidemment depuis très longtemps en français, depuis l'ancien français, on le trouve d'abord chez Chrétien de Troyes, et ça vit tant bien que mal en français général, mais ça, jusqu'au XVIIIe siècle, mais à partir du XVIIIe, ça commence à tomber en désuétude. On le trouve pourtant encore aujourd'hui dans la plupart des grands dictionnaires français, mais toujours avec des marques d'usage, du genre, alors le Grand Larousse langue française nous dit « classique et littéraire », ce qui est une autre façon en fait de dire que c'est vieux, tout simplement. Le grand Robert 1985 nous dit vieux ou régional. Et le DRF, alors c'est un sigle important, Dictionnaire des régionalismes de France, publié en 2001 par un enfant de votre pays, Pierre Rézeau. C'est donc le meilleur dictionnaire sur les régionalismes de France. Ce dictionnaire nous dit, cette locution est restée usuelle dans plusieurs régions de France, notamment dans le Nord, l'Ouest, et en Amérique francophone, ainsi qu'en Belgique, et dans le français des pieds noirs. Donc encore une fois, ça on voit que c'est une, du point de vue aréologique, c'est une extension qui est typique d'un archaïsme, c'est-à-dire un peu partout en périphérie. Voilà, petite réclame pour le dictionnaire de mon cher collègue Pierre Rézeau, qui est un des plus grands spécialistes de lexicologie, lexicographie française, et en particulier la lexicographie des régionalismes. En voici un exemple chez un auteur qui donne ses lettres de noblesse à cette locution. « Mon âme, car encore ce beau nom te demeure, et te demeurera jusqu'à temps que je meure, crois-tu qu'aucun respect aux craintes du trépas puisse obtenir sur moi ce que tu n'obtiens pas ?» Donc on voit que si jamais quelqu'un vous corrige méchamment en vous disant « Qu'est-ce que c'est que ça, t'as dit jusqu'à tant que, mais enfin c'est pas du bon français et tout », ben vous lui mettrez sous le nez cette magnifique citation de Pierre Corneille. Autre archaïsme phraséologique, en quelque part, à la place du simple « quelque part ». Alors c'est quelque chose qui est attesté très anciennement en français. La plus ancienne attestation que j'ai trouvée est tirée du fichier du dictionnaire du moyen français, qui est un énorme dictionnaire en cours de rédaction à Nancy. C'est un contexte d'ailleurs qui m'amuse beaucoup. Puis qu'il se trouvait en quelque part à découvert avec quelques belles filles, il lui montrait qu'il était homme. C'est un tour qui s'est maintenu jusqu'à maintenant en français québécois, sauf qu'en québécois, au lieu de dire « en quelque part », on prononce « en quelque part », on laisse tomber le « l », qui d'ailleurs probablement ne devait pas se prononcer non plus à l'époque. Il s'est maintenu aussi, ce tour s'est maintenu également dans les Antilles. Et puisqu'on parle beaucoup de Champlain cette année, ben on a ici une attestation justement de cette tournure dans les œuvres de Champlain, qui a beaucoup écrit, heureusement pour nous, ce qui nous permet de documenter l'histoire de nombreuses particularités. Alors, voyons ce passage. Là où il se trouve quelqu'un de l'assemblée qui s'offre de faire quelque chose pour le bien du village, ou aller en quelque part pour le service du commun, on fera venir celui-là qui s'est ainsi offert. Passons maintenant à des exemples d'archaïsme sémantique, donc des mots qui, dans leur forme, existent aussi en France, bien sûr, mais pas avec le même sens. Alors ça, c'est le truc classique. J'ai mis souper, mais j'aurais pu mettre déjeuner, dîner, souper, qui, bien sûr, ont gardé leur ancien sens en Belgique, en Suisse, au Canada et dans d'innombrables provinces de France. Peut-être la différence, c'est qu'en France, chez les gens qui ont gardé cet usage, il y a une sorte de double emploi avec ce qu'ils savent être l'emploi du français normatif et leur emploi familial, alors que dans des pays comme la Belgique, la Suisse et le Canada, c'est pas, non seulement c'est l'usage dans le cercle familial, mais c'est tout ce que tout le monde dit. Donc un exemple ici extrêmement récent, 1989, d'un auteur québécois. Je n'oserais pas mettre mon nez dans votre journée de Noël, mais pourquoi ne viendriez-vous pas souper avec moi dans un bon petit restaurant tranquille lundi ou mardi vers les 5h, 5h30? J'ai fait exprès pour mettre cet exemple parce que c'est en général renversant pour les Français de voir qu'il y a des Québécois qui soupent à 5h, 5h30. Moi, mon père, s'il a très faim, il commence à 5h moins 10, à 5h05, il a fini. Alors, comme on parle de Champlain encore une fois, voyons une attestation chez Champlain. C'est une attestation intéressante parce qu'il parle ici des Amérindiens. Hein. C'est extrêmement fascinant de voir le regard que les premiers Européens qui ont été en contact avec les Amérindiens ont porté sur eux. Alors, il se plaint ici de ce qu'il mangeait lui, et puis il est très envieux envers la nourriture de ces Amérindiens. Ils avaient aussi si grande quantité de palombes qu'impossible était de plus. Ils n'avaient pas moins de poissons comme brochets, carpes, esturgeons, alos, barbeaux, tortues, bars et autres inconnus, desquels ils dînaient et soupaient tous les jours. Aussi étaient-ils en meilleur point que moi, qui étais atténué par le travail et la fâcherie que j'avais eue, et n'avais mangé le plus souvent qu'une fois le jour de poissons mal cuits et à demi rôtis. Alors, si vous consultez encore une fois le DRF, on vous dit bien sûr que c'est un archaïsme qui, je le disais tout à l'heure, s'est maintenu en plusieurs régions de France. D'où ça vient cette histoire? Eh bien, ce sont les Parisiens, toujours eux, qui... les pauvres, on leur tape toujours dessus. Ce sont les Parisiens qui, au XIXe siècle, enfin déjà à la fin du XVIIIe, se sont mis à manger toujours de plus en plus tard. Donc si vous voulez, ce n'est pas tellement le nom du repas qui a changé comme tel, c'est que ce sont les habitudes sociales. Les gens se sont mis à manger toujours de plus en plus tard, jusqu'à ce que le souper, ou en tout cas le repas qui s'appelait souper, soit repoussé tard dans la soirée. Ce déplacement a provoqué, dans le courant du XIXe siècle, l'apparition de petits déjeuners, parce qu'à partir du moment où ils se sont mis à déjeuner de plus en plus tard, quand on déjeune à midi et qu'on se lève à 8 heures, ben on a faim, hein, donc ça fait un repas de plus. Mais comment l'appeler? C'est comme ça qu'est apparu petit déjeuner, mais ce n'était pas le seul terme au début, il y a eu des hésitations. Il y avait petit déjeuner, mais il y avait d'autres termes aussi. D'ailleurs, on a dit petit déjeuner et grand déjeuner pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on cesse de dire grand déjeuner pour dire déjeuner tout court. Tout ça s'est joué au XIXe siècle, mais c'est un phénomène essentiellement parisien à la base qui par la suite a été s'est transmis peu à peu aux autres grandes villes de France jusqu'à pénétrer l'usage de toute la population. Deuxième exemple d'archaïsme sémantique, peut-être que si vous êtes allé au Québec, vous avez remarqué qu'on emploie le mot mitaine. Alors non pas pour, d'après les dictionnaires en tout cas, ce qui s'appelle mitaine en France, c'est-à-dire les gants qui laisse les doigts à découvert, mais bien ce que l'on appelle en France des moufles. On en trouve ici une belle attestation de Nouvelle-France, d'un chroniqueur de Nouvelle-France, Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle, 1664, qui répond aux interrogations que pourraient avoir les candidats à une émigration à l'époque coloniale. Les froids y sont-ils grands l'hiver ? Il y a quelques journées qui sont bien rudes, mais cela n'empêche point que l'on fasse ce que l'on a à faire. On s'habille un peu plus qu'à l'ordinaire, on se couvre les mains de certaines moufles, appelées en ce pays ici des mitaines, 1664 déjà. C'est quelque chose qui devait quand même être assez répandu à l'époque, parce que non seulement ça survit aujourd'hui en québécois, mais ça survit également en français de Suisse romande. Si vous dites des mitaines en Suisse romande, ce n'est pas des mitaines au sens français de France, c'est des mitaines au sens où on l'entend nous au Québec. Et ça, c'est juste une petite réclame maintenant, mais pour mon dictionnaire à moi, pendant ces années que j'étais en Suisse, j'ai rédigé entre autres un dictionnaire qui s'appelle Dictionnaire Suisse Roman, qui est un petit peu fait sur le même modèle que les deux autres, le DHFQ et le DRF pour la France et pour le Québec, mais qui, lui, est consacré aux particularités du français en Suisse romande. Donc, vous trouvez le mot mitaine également dans ce dictionnaire-là. Passons à des exemples d'archaïsmes grammaticaux. Qu'est-ce qu'on entend par archaïsmes grammaticaux ? Ça pourrait être de la syntaxe ou de la morphologie verbale. Ici, je vais me limiter à des exemples de genre d'abord, ou de nombre. Le fait, par exemple, qu'à côté de une dinde, on trouve aussi dans la documentation canadienne un dinde au masculin, je vais y revenir. On trouve par exemple pantalon non pas au singulier mais au pluriel, mais bel et bien pour désigner une seule paire de pantalons. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Et ensuite, dans le domaine des verbes, on constate qu'il y a des verbes qui n'ont pas exactement le même fonctionnement, la même valence verbale techniquement, comme on appelle ça. Et enfin, il y a des verbes qui s'utilisent avec d'autres régimes prépositionnels en français québécois, mais toujours par archaïsme. Alors voyons ces exemples un par un. Il est tout à fait courant et banal de dire en français québécois « sans venir » pour « venir ». Et probablement que 99% des Québécois sont totalement inconscients du fait que ça ne se dit pas tellement en France. Cela dit, ça s'est dit très longtemps en France. Alors si on regarde ce que nous dit par exemple le petit Robert 2008, sous venir grand 4, sans venir verbe pronominal, attesté en français depuis 1080, c'est quand même attesté depuis très longtemps en français, vieux ou régional, avec la précision courant au Canada, et ça veut dire venir tout simplement. Un petit exemple de Roger Lemelin, get sionésime, s'en vient. Deuxième exemple d'archaïsme grammatical, le fait d'utiliser le verbe « aider » avec la préposition « à ». Non pas « aider quelqu'un », mais « aider à quelqu'un ». C'est quelque chose qu'on retrouve également en Suisse. Alors, ça s'est dit pendant des siècles et des siècles et des siècles en français général. La plus ancienne attestation, ça remonte à Roland. C'est l'ancien français. Et ça traîne encore sans marque jusque dans le dictionnaire de l'Académie 1932. Et la première marque qui nous présente cet emploi comme vieilli date du Grand Larousse 1960. Donc c'est quand même assez récent que cet emploi prépositionnel avec aider est considéré comme vieilli en France. Ce n'est pas du tout perçu comme vieilli au Québec, je le répète, c'est vraiment absolument banal. Alors, un petit exemple ici. Paraplégique condamné au lit depuis 30 ans, un homme veut mourir. Il le dit publiquement, ce qui amène plusieurs personnes à entrer dans sa vie. Une avocate veut lui aider à mourir, une jeune mère de famille veut l'en dissuader. Donc ça passe totalement inaperçu au Québec. C'est un emploi tout à fait banal. Quelque chose ici d'un petit peu plus rare, ça, personnellement c'est un emploi que je ne connaissais pas, c'est l'emploi de dinde, non pas au féminin, mais bien au masculin. Cela dit, ça a été attesté longtemps en français, c'était dans les dictionnaires français de Trévoux, 1721, à Ferraud, 1700. 87. Donc pourquoi le masculin, pourquoi le féminin? Alors d'Inde, ça vient tout simplement de D' apostrophe Inde, le nom du pays, mais à partir de locution poule d'Inde, coq d'Inde. Alors une d'Inde, ça vient tout simplement d'une poule d'Inde, mais par ellipse de poule, et un d'Inde, ça vient tout simplement de coq d'Inde, qui était d'ailleurs prononcé co d'Inde à l'époque coloniale. Et comme dans une basse-cour, en général, je crois qu'il y a plus de poules que de coqs, et ben, ma foi, c'est le féminin qui l'a emporté pour une fois. Donc, une d'Inde. Mais on trouve. Alors, moi, ça, contrairement à sans venir et aider à, qui sont tout à fait généraux en français québécois, un d'Inde, vous risquez beaucoup moins de l'entendre. Bon, là, ici, sur cette diapo, j'ai une ancienne attestation, mais qui date de 1765, donc de l'époque coloniale, plus ou moins, de la grosseur d'un d'Inde gris-blanc. C'est un explorateur français qui était de passage en Louisiane. J'ai trouvé une attestation beaucoup plus récente dans le fichier du Trésor de langue française au Québec, 1983, de la part d'un chansonnier que vous connaissez certainement si vous êtes québécois, qui s'appelle Plume la Traverse, qui est connu pour utiliser du français de tous les registres dans sa production poétique, et qui nous dit ici dans l'une de ses chansons, ou dans l'un de ses poèmes, « Du beau d'Inde frette qui dégèle ». Bon, mais bon, ça, j'étais content de le trouver, ça me prouve que ça a existé au Québec, mais c'est beaucoup plus rare que tous les autres emplois que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Alors, le concept de statut maintenant, c'est le concept qui est peut-être un petit peu plus difficile à expliquer. Il y a des mots qui existent de part et d'autre de l'Atlantique, mais qui n'ont pas exactement la même connotation, le même statut. Hein. Des mots, par exemple, qui sont en train de vieillir. En France, ce n'est pas qu'on les emploie plus, on peut les entendre, hein, mais qui sont en train de vieillir. Alors, c'est le cas de cette paire de mots, souliers et chaussures. Vous aurez remarqué, si vous allez au Québec, que le mot soulier s'emploie beaucoup plus qu'en France. Ce n'est pas que le mot chaussure est inconnu en français québécois, mais pour nous, chaussure, c'est un générique. Des bottes, des sandales, des souliers, c'est des chaussures. Mais des souliers prototypiques, c'est des souliers. On dit des souliers. Et curieusement, et d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi je me pose la question, curieusement depuis environ un siècle et demi, en France, on dit de moins en moins souliers. On ne le dit presque plus. Et c'est un phénomène assez récent. On va voir une diapo pour voir plus en détail Passons à cette diapo. J'ai fait ici des statistiques à partir d'une base de données qui s'appelle Frantext. Les linguistes la connaissent, donc c'est une base de littérature française. Enfin, c'est surtout de la littérature à 80%. Il y a aussi à peu près 20% de textes techniques de toutes les époques, enfin toutes les époques, surtout de 1500 jusqu'à nos jours. Et j'ai mis ici les proportions respectives du mot soulier et du mot chaussure au cours des siècles. Alors, avant 1600, alors chaussures étant rose et souliers étant bleu sur ce graphique, et bien avant 1600, vous n'avez presque pas d'attestation de chaussures, alors que souliers est très très fréquent. Et au fur et à mesure qu'on avance, bon, ça change pas tellement jusqu'au 18e siècle à peu près, et à partir de du dernier tiers du 19e siècle jusqu'à 2000, en France, l'emploi de souliers est en chute libre, alors que chaussures l'a remplacé. Et le croisement se fait à peu près au milieu du XXe siècle. Et ça n'a pas eu lieu au Québec. On continue de dire souliers, chaussures bien sûr s'emploie, mais je le répète comme générique. Maintenant, nous passons à une autre catégorie. On a terminé avec les archaïsmes, passons maintenant aux régionalismes importés de France. Là, pour aller un petit peu plus vite, et parce qu'il n'y en a pas nécessairement dans toutes les catégories, on ne va avoir que trois catégories, phonétique, lexématique et sémantique. Alors, un exemple phonétique, plusieurs mots qui commencent ou qui se terminent par le son « gue » en québécois, voient ce « gue » se transformer en « ye ». Ça ne touche pas tous les mots, et surtout ça ne touche pas tous les tous les niveaux de langue. Mais voyons ici le mot « gueule », qui est un mot justement qui apparaît souvent dans des énoncés fortement expressifs comme « ferme ta gueule ». C'est un mot dans lequel le « gue » s'est d'abord transformé en « je », une palatalisation, et le « je » en question s'est ensuite affaibli en « ye », en « ye » tout simplement. Donc « gueule »,« gueule », »,« gueule ». C'est, d'après cet auteur qui s'appelle Marcel Junot, qui est le fondateur, qui est membre fondateur du Trésor de la langue française au Québec, dans son ouvrage magistral « Contribution à l'histoire de la prononciation française au Québec », c'est un phénomène qui serait originaire d'ici, du domaine Poitevineau-Saint-Ongeais, car effectivement on le trouve dans un immense ouvrage qui s'appelle l'ALF, l'Atlas linguistique de la France, qui a été fait avec des relevés qui datent du début du XXe siècle, à une époque où les patois étaient encore très vivants en France, et ce phénomène de relâchement du « je » en « ye » est très bien attesté dans tout le domaine. On suppose donc que c'est fort probablement d'ici que ce phénomène phonétique a été exporté au Québec. Enfin, en Nouvelle-France, ne soyons pas anachroniques. Un régionalisme maintenant lexématique, un mot régional de France qui a été exporté, le fameux « achalé », c'est un mot extrêmement fréquent en français québécois, « achalé » et toute sa famille, « achalé », »,« achalage », etc. Un exemple ici, « ma blonde », un autre beau mot québécois, « ma blonde », donc ma femme, ma copine, mon épouse, etc. « Ma blonde n'arrête pas de m'achaler avec le fait que l'an prochain, je change de dizaine », probablement qu'il va avoir 30 ans ou 40 ans, ou bon. Alors, quand on consulte le DRF, donc le Dictionnaire des régionalismes de France, hein, c'est pas le DHFQ ici, c'est carrément le DRF, parce que c'est un mot justement qui survit dans certaines provinces de France, on nous dit que c'est un mot du nord-ouest et de l'ouest de la France. C'est un dérivé sur un verbe d'ancien français qui était le verbe « chaloir », qui voulait dire « chauffer », peu me chaud, avec des petites modifications morphologiques, une préfixation A, un changement de désinence, il a survécu donc dans le français de l'Ouest. Aujourd'hui, on le trouve encore en Normandie, en Haute-Bretagne, dans le Maine et l'Anjou. Un autre régionalisme lexématique qui désigne une... Il y a quelqu'un qui le dit ? Vous dites... Pour blague, oui, mais au moins vous le dites, c'est bien. Est-ce que vous utilisez celui-ci, avoir la picote ? Non, ça veut dire, alors la picote, c'est un autre mot de la variole, avec un bel exemple ancien ici, tiré du fichier du TLFQ. Il n'y avait pas encore un mois qu'ils étaient guéris de la picote qui en avait emporté la plus grande partie. On ne voyait dans ce village que fosse où ils étaient là, deux ensemble, et nous jugeâmes bien qu'il n'y avait pas 100 hommes, tous les enfants étaient morts, et une grande partie des femmes. Bon, ça, ce sont les ravages qu'avaient causé les maladies d'origine européenne dans les populations amérindiennes qui n'avaient pas d'anticorps contre toutes ces saloperies de virus. Alors, c'est un régionalisme qui est attesté déjà chez Rabelais. C'est chez Rabelais, en 1552, qu'on trouve la première attestation. Et il est assez répandu dans plusieurs parlers de l'Ouest et du Sud gallo-romand, avec, nous dit encore une fois le DRF, une densité particulièrement élevée en Angevin et en Poitevin. Des exemples anciens, le contexte de Rabelais, on l'a ici. L'un y avait la picote, l'autre le tac, l'autre la rougeole, l'autre gros féroncle. Une attestation ensuite dans le plus ancien dictionnaire bilingue anglais-français qui date de... Pardon, français-anglais, qui date de 1611, le fameux Cotgrave. Picote, the smallpox. Une attestation ensuite du fameux père... Pierre-Philippe Potier, qui était jésuite. Alors, le père Potier est l'auteur d'un document extrêmement important pour l'histoire du français, pardon, du français québécois, parce que bon, c'était un père jésuite qui était d'origine belge, qui est allé en Nouvelle-France vers les dernières années du régime français, à une époque où le français de Nouvelle-France était déjà constitué comme une entité à part entière avec ses particularismes. Alors évidemment, étant d'origine belge, il a remarqué l'existence de plusieurs particularismes, il en a dressé une liste manuscrite et heureusement ces manuscrits ont été préservés et édités, donc on a énormément de premières attestations extrêmement précieuses de québécisme dans les écrits du père Potier, alors à Québec, alors être picote, féminin, maladie, petite vérole. Et ça traîne encore jusque dans le dictionnaire de Littré, 1866, picote, un des noms populaires de la variole. C'était peut-être pas tellement une question populaire ici, plutôt qu'une question de régionalisme. Un régionalisme sémantique, celui-là, rester au sens de habiter, demeurer quelque part. Alors, ça aussi, c'est tout à fait normal en québécois, ça passe inaperçu. Je crois qu'en général, les Québécois ne sont pas conscients que, ou très peu conscients qu'en France, ça ne se dirait pas comme ça. Un exemple, je ne me plains pas d'avoir à prendre mon auto pour aller travailler, je reste en banlieue et j'assume les avantages et les inconvénients qui vont avec. Ça ne veut évidemment pas dire je reste, je m'y maintiens, ça veut dire j'habite en banlieue. Alors vous avez ici une carte tirée du fameux dictionnaire des régionalismes de France de Pierre Rézeau dont je vous parlais tout à l'heure, où on voit la répartition aréologique de ce rester au sens d'habiter. Donc on voit que c'est quand même assez répandu en France, même si ça ne couvre pas, et de loin, la plus grande partie du territoire, même pas la majeure partie du territoire. Mais c'est, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que ce mot qui s'est maintenu au Québec n'est même pas nécessairement aujourd'hui utilisé dans les régions qui ont donné le plus de colons à la Nouvelle-France. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, depuis trois siècles, il y a eu une très, 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 très forte pression normative contre cet emploi. Alors, je vous dis un petit secret en passant, c'est moi qui ai rédigé l'article « Rester » dans ce dictionnaire, le dictionnaire des régionalistes de France, parce qu'on était une équipe quand même, il y a plusieurs personnes qui ont rédigé des articles. Donc j'ai eu l'occasion vraiment de consulter des tas de dictionnaires pour voir ce qu'on disait de cet emploi, c'est-à-dire « rester au sens d'habiter ». Et il y a eu une campagne normative très, 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 très forte contre cet emploi. On disait « c'est les Normands qui parlent comme ça, c'est les Gascons qui parlent comme ça, c'est pas bien », etc. Et de toute évidence, l'extension, hein, la répartition aréologique de ce mot a dû subir une diminution, un rétrécissement depuis trois mois à cause évidemment de ce poids normatif. Passons maintenant à la catégorie des emprunts, on avance. Alors les emprunts en langues amérindiennes. Alors dans les emprunts, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux catégories, les emprunts en langues amérindiennes et les emprunts en anglais. Et le déséquilibre entre les deux est énorme, c'est-à-dire qu'il y a en fait très très peu d'emprunts aux langues amérindiennes et énormément d'emprunts à l'anglais, ce qui évidemment est révélateur des relations de pouvoir entre les groupes en présence. Alors, des amérindianismes phonétiques, phonologiques, je n'en ai pas trouvé. Lexématiques, bien sûr, on va avoir quelques-uns, mais phraséologiques, sémantiques, grammaticaux, je n'en ai pas trouvé non plus. De statut, on va en voir quelques-uns. Alors, d'abord, un bel amérindianisme lexématique, atoka, des atoka, pour désigner d'abord, bien sûr, l'arbuste qui donne ses petits fruits et par métonymie, bien sûr, les fruits en question, des petites baies rouges. Ce n'est pas le seul mot employé au Québec pour désigner ce fruit dans la langue savante ou soignée, comme nous dit ici le dictionnaire historique du français québécois. On parle tantôt d'érelle ou d'érelle rouge, tantôt de canneberge. Mais le mot atoka est quand même encore très, très, très vivant. Alors, pour avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble et à la façon dont c'est récolté, ça pousse dans des tourbières, comme ça, dans les zones extrêmement humides. Comme vous pouvez le voir, il y a toute une technologie pour la récolte des atoka. Oups, pardon, on les voit ici d'un petit peu plus près. Alors, on en a ici une très belle attestation très ancienne dans les relations des jésuites. Les jésuites, Dieu merci, nous ont laissé énormément de documentation sur toute l'aventure coloniale, du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Ils étaient aussi, vous le savez, en Amérique latine. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici, 1656 ? Dieu nous donna un petit fruit sauvage qu'on nomme ici Atoka. La jeunesse en allait ramasser dans les prairies voisines. Et quoi qu'il n'eût presque ni goût ni substance, la faim nous le faisait trouver excellent. Il est un peu sévère là quand même. Il est presque de la couleur et de la grosseur d'une petite cerise. Alors c'est un mot qui est attesté depuis 1656 et qui est d'origine iroquoienne. On le trouve dans des dictionnaires de langue huronne sous la forme A-T-O-X. Ah, ce X servait à rendre une prononciation creux, c'est-à-dire un son qui n'existe pas en français mais qui existait dans ces langues et qui a été rendu en français par le que, tout simplement. Un amérindianisme maintenant de statut, caribou. Alors caribou, je ne parle pas ici de la boisson mais de l'animal. Caribou, si vous le cherchez dans n'importe quel dictionnaire français, vous allez le trouver, évidemment. Pourquoi c'est un amérindianisme de statut ? Parce que, bien sûr, son emploi au Québec est infiniment plus fréquent qu'en Europe et qu'il n'est pas senti comme un terme exotique, évidemment. Par rapport à son parasynonyme qui est le mot « renne », renne et caribou sont deux mots qui désignent à peu près la même espèce, à cette différence près que le renne est dans le nord de l'Europe, le caribou est en Amérique du Nord. On emploie le mot renne aussi, mais seulement dans des contextes du genre « le petit renne au nez rouge à Noël ». Renne, c'est un animal un peu mythique. Si vous parlez d'un caribou au Canada, au Québec, vous employez évidemment le mot « caribou ». Un joli caribou ici pour agrémenter un peu cette présentation. Voilà, c'est un mot qui est dans les dictionnaires français depuis Trévoux, 1721. D'origine algonquienne, blablabla. Alors, d'où vient ce mot, caribou ? C'est un mot originaire du Micmac, de la langue des Indiens Micmac, et qui signifiait littéralement pelleteur ou gratteur, par référence à cette habitude qu'a l'animal en question de creuser la neige avec ses sabots l'hiver pour atteindre le lichen. Passons maintenant aux emprunts anglais qui sont beaucoup plus nombreux, ceux-là. Encore une fois, on a toutes les catégories, elles sont toutes représentées. Un exemple d'influence de l'anglais sur la phonologie du français québécois. Pas seulement sur la phonétique, mais même sur la phonologie, c'est-à-dire la possibilité d'opposer des sons, des phonèmes. Aujourd'hui, en français québécois, pour n'importe quel locuteur natif, il y a possibilité d'avoir opposition phonologique entre un « i » bref et un « i » long. Vous avez ici la phrase « Je voulais seulement vous taquiner une petite bête ». A little bit, c'est le mot anglais, hein, qui ne se prononce pas du tout comme la voyelle, comme le mot, pardon, qui a la voyelle longue, beat. Si je dis ce musicien-là, il y a vraiment un bon beat. C'est pas bit, c'est beat. C'est vraiment l'opposition de la langue anglaise qui aujourd'hui est réalisable par n'importe quel québécois, locuteur de français québécois, disons. Parallèlement, on observe également la possibilité d'opposer phonologiquement le « ou » long et le « ou » bref relâché. Le volatile, P-O-U-L-E, ça se prononce « poule ». Mais si je parle d'une table de billard, j'ai une table de poule. On ne dit jamais une table de poule, pas une table de poule. Ce n'est pas possible. C'est deux mots qui sont reconnus comme formant une paire minimale phonologiquement pour un Québécois aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand, au 19e siècle, les Québécois ont emprunté le mot anglais bean, B-E-A-N, pour désigner les que vous appelleriez les faillots, peut-être, les haricots, cette possibilité n'existait pas. Et encore jusqu'à aujourd'hui, on dit des beans pour le mot anglais bean. On serait capable de prononcer « bean » aujourd'hui. Ça fait vraiment partie aujourd'hui des possibilités spontanées de n'importe quel locuteur franco-québécois, mais c'est un emprunt ancien, un emprunt du 19e siècle déjà à l'anglais, à une époque où on n'était pas capable de prononcer ce « i » long. Sinon, bien sûr, vous l'aurez remarqué ou où les Québécois se seront amusés à vous le, méchamment ou malicieusement à vous le dire, la plupart des mots d'origine, enfin les mots anglais, ont tendance à être prononcés beaucoup plus à l'anglaise au Québec qu'en France. Donc ça m'étonne toujours quand j'entends ici le coach pour le coach, Chrysler pour Chrysler. Et j'entendais encore hier ou avant-hier bobsleigh. Alors bobsleigh pour un Québécois, c'est comme c'est invraisemblable. Bobsleigh. Et pourquoi sleigh? C'est bon. Sinon, des anglicismes lexématiques, des mots à part entière. Alors un que vous allez certainement entendre, que vous pouvez pas entendre si vous allez au Québec, le fameux peanut pour ce qui s'appellerait ici cacahuète. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en québécois, quand on se force pour bien parler, on ne dit pas du tout cacahuète, on dit arachide, qui est un mot extrêmement rare en France en fait, parce que tout le monde dit plutôt cacahuète. Un exemple très ancien, le plus ancien exemple que j'ai trouvé dans le fichier du dictionnaire, du Trésor langue française, 1879, une attestation d'ailleurs qui nous montre que contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, les premiers Québécois qui sont entrés en contact avec les cacahuètes ont trouvé que c'était une chose bizarre et indigeste. Au coin de la 107e rue, il s'agit des impressions de voyage d'un Québécois à New York, il avise un inventaire de marchands de peanuts et se paie la fantaisie d'un cornet de cette friandise aussi indigeste que Yankee. Alors rassurez-vous, les Québécois ont bien changé entre-temps parce que le beurre d'arachide, comme on appelle ça chez nous, a énormément de succès auprès des Québécois de toutes les générations. Un anglicisme ici qui a acquis ses lettres de noblesse dans la littérature, hein, on pense en particulier au roman Menot, maître draveur de Félix-Antoine Savard, drave, qui désigne le flottage, le transport du bois par eau sur les cours d'eau, qui est un emprunt à l'anglais drive, mais pas n'importe quel drive, le mot anglais drive, avec le sens, comme nous le dit ici le Oxford English Dictionary, le OED, de a mass or quantity of timber driven down a stream. Ça vient bien sûr de drive dans le sens de diriger. Hein. Donc l'attestation la plus ancienne en anglais avec ce sens, hein, est de 1885, et l'attestation la plus ancienne en français québécois est de 1890, seulement 5 ans plus tard. Et c'est donc un pauvre bûcheron qui n'avait pas une très bonne orthographe, vous allez l'excuser, mais c'est quand même un témoignage extrêmement important. Donc il nous raconte dans une lettre « J'ai été à l'Amérique pour la drave, à une place nommé Moose River. Et l'eau était si basse dans ce temps-là qu'il n'y avait pas d'engagement. J'ai travaillé 8 jours à jeter les billots à l'eau à Saint-Théophile. C'était les billots que nous avons coupés cet hiver. » Donc c'est un mot anglais qui est... À peine est-il apparu avec ce sens en anglais que tout de suite il passait en français québécois. Voilà. Il y a des anglicismes également phraséologiques, bien sûr. Donc, si on reste dans le domaine, si on revient à nos arachides, une expression qui est très fréquente, travailler pour des peanuts, ce qui équivaut à ce qui serait évidemment ici en français, travailler pour des cacahuètes. Un anglicisme sémantique, celui-là, sous-marin. Alors, si vous allez au Québec et qu'on vous invite à manger un sous-marin, rassurez-vous, ce n'est qu'une espèce de sandwich. C'est d'introduction assez récente en français québécois, la plus ancienne attestation qu'ils ont trouvée de 1978 dans les textes, c'est peut-être un petit peu plus ancien, mais peut-être pas tellement non plus. Alors si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air, ça ressemble à ça. Et quatrième catégorie d'anglicisme, anglicisme grammatical, le fait d'employer un substantif ici qui normalement ne s'emploie qu'au singulier, le fait de l'employer au pluriel. Des argents pour des sommes d'argent, des crédits, des fonds, etc. Alors voici un exemple de Maurice Duplessis qui est un petit peu l'équivalent québécois de Franco, de Mussolini, de Salazar en pleine grande noirceur. Nous sommes pour un gouvernement qui administre les argents du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est un emploi qui a été énormément critiqué au Québec comme étant dû à l'influence de l'anglais. Or, on le trouve également en France, en Belgique, en Suisse. C'est un petit peu difficile de savoir si c'est vraiment dû à l'influence de l'anglais. Peut-être que l'anglais a eu un rôle, disons, dans le maintien de cet usage ou dans sa fréquence. C'est attesté depuis 1767, donc le tout début du régime anglais chez nous, dans la Gazette de Québec, qui est un journal bilingue. J'avance un petit peu là pour vous montrer des exemples également en France. On peut trouver des exemples chez ici George Sand, Victor Hugo, Verlaine, etc. Donc de grands auteurs français. Donc c'est un petit peu difficile d'être aussi affirmatif que les puristes chez nous qui sont archi sûrs que ça vient de l'anglais, que c'est dû au fait qu'en anglais on peut dire monies dans certains contextes au pluriel. On le trouve quand même aussi dans les sources françaises, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Et un anglicisme de statut ici, alors je m'excuse pour les âmes sensibles et pour les gens en bas âge ici, mais le mot condom est un mot que vous allez trouver, bien sûr, dans n'importe quel dictionnaire français. Ce n'est pas que ça n'existe pas en France, on le trouve dans les dictionnaires, mais en France, bien sûr, on vous dira dans les dictionnaires que c'est un terme, ça l'excite, je remarque, c'est un terme qui est donné par les dictionnaires français comme vieux ou didactique. Alors qu'au Québec, bien sûr, ce n'est ni vieux ni didactique, c'est un mot archi fréquent, je crois que ça se dit autant sinon plus que préservatif. Pourquoi? Bien sûr, en raison de l'influence du mot de l'anglais, parce qu'en anglais, le mot le plus normal, bien sûr, c'est condom. Donc, évidemment, à cause de l'influence de l'anglais, ce mot, qui existe aussi en France, mais enfin qui est très rare, est beaucoup, beaucoup plus fréquent au Québec. Des créations. 10 h moins le quart, on a commencé un peu tard, j'essaie d'aller vite, excusez-moi, je sens que vous êtes un peu fatigué. Nous allons voir rapidement pour terminer des innovations, juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas que des vieilleries et des emprunts en français québécois. La fameuse assimilation, bien sûr, vous aurez remarqué qu'en français québécois, ce qui frappe le plus l'accent peut-être, parmi les consonnes en tout cas, c'est le fait qu'on prononce ts et dz devant i et u. Donc, par exemple, moi je m'appelle Thibaut, c'est pas Thibaut, c'est Thibaut. Dur, dur, c'est dur, dur. Et on n'arrive pas à trouver aucune région de France où ça existe. Il y a énormément de régions de France où il y a de la palatalisation, hein, on va dire par exemple Thierry à la place de Thierry, mais tse, et non pas tche, tse, c'est extrêmement rare. On a énormément de peine à trouver ça ailleurs en francophonie, donc on suppose que c'est fort probablement une innovation propre au français québécois. Très rapidement, des innovations lexématiques. Donc, à partir du français zippé, on a créé rezippé et dézippé par dérivation préfixale. Par dérivation maintenant suffixale, à partir de érable, on a créé érablière pour désigner le peuplement d'érable à sucre où l'on fait le sirop d'érable. À partir de chercher, rechercher, on a fait recherchiste pour plus ou moins ce qui désignerait en France une documentaliste, et des composés, il y en a des tas, j'en ai mis un exemple ici, un souper causerie, pour désigner une conférence ou un exposé présenté devant des convives réunis pour le repas du soir. Des innovations phraséologiques en français québécois, il y en a, en veux-tu, en voilà. En voilà, en voici une, être né pour un petit pain, pour traduire une attitude de résignation qu'on a longtemps considérée comme typiquement canadienne française, à l'époque où on s'appelait encore canadien français, être né pour un petit pain. Une deuxième ici, changer, échanger 4,30 sous pour une piastre. Alors, le dollar canadien est normalement séparé en 4 pièces de 25 cents. Eh bien, les Québécois appellent ça un 30 sous. Pourquoi, me direz-vous, il n'y a pas un Québécois qui le sait non plus, il n'y a pas qu'en France, pourquoi est-ce que le 25 cents s'appelle 30 sous? Parce que la piastre canadienne avait autrefois 120 cents et non pas 100. Donc le quart de 120, ben, c'était 30. Et quand ils sont passés au système des dollars de 100 cents et non pas 120, eh ben, les gens ont continué d'appeler le quart de la piastre, ils ont continué d'appeler ça un 30 sous. Des innovations sémantiques, de la même façon qu'en France on dira un harpagon pour un avare, eh ben, on va dire chez nous un séraphin, à cause d'un personnage, du personnage d'un roman qui a connu énormément de succès au Québec. Il y a un petit insecte aquatique qui semble patiner à la surface de l'eau, qui est appelé donc patineur par métaphore. Et enfin, pour désigner au hockey sur glace le palais, je crois que vous appelez ça palais en France, on dit une rondelle. Innovation grammaticale, la plupart des substantifs qui commencent par une voyelle ont tendance, une tendance très forte à les traiter tous comme des féminins. Donc dire une autobus, une belle habit, une hiver ben tough, etc., etc. Et enfin, une innovation de statut, je le mentionnais tout à l'heure, en réaction à l'anglicisme peanut, quand on veut bien parler en québécois, on ne dit pas des cacahuètes, on dit des arachides. On n'est pas conscient que c'est un mot extrêmement rare en français de France. J'arrive à l'avant-dernière diapo et après je vous libère. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette grille que je viens de vous présenter ? Ça fait les délices évidemment des universitaires quand on peut tout faire tenir dans des petites cases, mais parfois la réalité rechigne un peu à rentrer dans les petites cases. Il faut parfois tenir compte du fait que l'histoire d'un mot peut être très longue et très mouvementée, et que par exemple un amérindianisme peut avoir transité par l'anglais. C'est le cas du mot « caucus », qui est un terme de politique. Ça vient d'une langue amérindienne, mais ça nous est venu à travers l'anglais. Un archaïsme, ou ce qui s'appelle un archaïsme, peut très bien avoir subi des évolutions sémantiques. Donc à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est un archaïsme ou est-ce que c'est une innovation ? Ben, ça dépend, il faut serrer les problèmes, les traiter un par un, par étapes, tout simplement. C'est le cas, par exemple, de « beurrer » au sens de « réprimande », hein, une sacrée beurrée. Ensuite, un régionalisme importé de France peut avoir, bien sûr, lui aussi donné lieu à des néologismes, à des dérivés formels, un anglicisme également. Donc à partir de « bin », qui est un mot à la base anglais, on a formé le dérivé « binerie » avec un suffixe français. Donc c'est un anglicisme ou c'est une innovation ? Ça dépend, il faut serrer encore une fois les problèmes, prendre les étapes une après l'autre. Et enfin, voilà, ma conclusion toute très brève à partir de ces quelques critiques, c'est que la langue, comme la plupart des phénomènes qui relèvent des sciences humaines, est toujours infiniment plus riche que les humbles descriptions que nous, linguistes, arrivons à en faire. Alors voilà, Champlain, vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à 10h moins 10, et merci encore pour cette invitation. Voilà.
On peut s'autoriser un petit échange, non ?
Si vous voulez, oui. Le maringouin, ça vient de... Le maringouin est un emprunt à une langue qui vient du Tupi Guarani d'Amérique du Sud. Les Français n'étaient pas présents que dans le Nord, qu'en Nouvelle-France. Hein, ils étaient aussi très présents dans les Antilles et en Guyane, entre autres, puisque vous y êtes encore, hein, la Guyane française. Et il y a énormément de mots à cette époque-là, qui ont circulé, qui sont passés du Tupi-Guarani au parler des premiers explorateurs français dans la région, pas seulement français, mais espagnol, portugais, hollandais, anglais, etc. Et ça s'est mis à circuler. Il faut voir que ces gens de l'aventure coloniale, ils avaient la bougeotte, ils circulaient beaucoup. Quand on lit les textes de Champlain, c'est absolument fascinant. On voit qu'il était constamment en train de se promener. Il a été lui aussi dans les Antilles, il a été plusieurs fois en Nouvelle-France, il revenait en France. Et tous ces gens-là se connaissaient, tous ces gens-là échangeaient beaucoup entre eux. Il y a tout un stock de mots comme ça qui datent de l'époque coloniale, qui peuvent être d'origine amérindienne, mais amérindien au sens très large. Ça peut aller jusqu'en Amérique du Sud. Voilà, pour maringouin. Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences de ça ?
Oui.
Oui. Alors, les conséquences, les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, c'est des mots de la gastronomie. Hein. Si vous êtes allé à Montréal, j'espère que vous avez mangé des bagels ou des bagels, on peut le prononcer de différentes façons. les fameux bagels, donc ce sont des juifs originaires d'Europe de l'Est qui ont introduit ça déjà au début du XXe siècle à Montréal, et maintenant c'est presque l'emblème gastronomique de Montréal. On prétend à Montréal qu'on fait les meilleurs bagels en Amérique du Nord, vous voyez. Donc il y a des mots comme ça, donc c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Maintenant, à époque beaucoup plus récente, il y a des tas de phénomènes qui sont en train d'avoir lieu maintenant. Je sais qu'il y a une très très forte communauté d'origine haïtienne et qui est très active, enfin les jeunes d'origine, enfin, dont les parents sont d'origine haïtienne, sont très actifs sur la scène du rap. Et il y a du rap à Montréal qui combine du créole haïtien, du français plus ou moins standard, du français québécois. C'est des phénomènes extrêmement intéressants et extrêmement récents.
Des formes, enfin je ne sais pas, vu d'ici, hein, je ne sais pas ce que c'est, tel que le joual ou le chinook, etc. Bon, on semble reconnaître quand même un peu de français dedans. Qu'est-ce qu'il en est devenu de ce machin? Enfin,
Je crois que vous avez parlé du joual et du chiac, si j'ai bien compris, c'est ça?
Ou du chinook, là,
machin. Chiac.
Oui, chiac.
Chiac. Oui, le chinook, ça existe aussi, mais c'est complètement autre chose. Hein. Le mot joual est utilisé en général pour désigner le français parlé par les classes prolétaires les plus défavorisées de l'agglomération montréalaise, mais c'est beaucoup moins anglicisé que ce qu'on appelle le chiac, qui lui est véritablement un parler hybride, parler en particulier dans la région de Moncton au Nouveau-Brunswick, où là on fait ce qu'on appelle techniquement du code switching, c'est-à-dire de l'alternance codique entre le français et l'anglais. C'est vraiment extrêmement répandu et identitaire carrément pour les locuteurs de chiac. Parler chiac, c'est vraiment une façon de montrer leur appartenance et leur identité. C'est une façon de dire nous ne sommes pas des Canadiens anglais, nous ne sommes pas des Québécois non plus. Nous ne sommes pas des vieux Acadiens de l'époque de la Sagouine, d'Antonine Maillet. Nous sommes des jeunes Acadiens de Moncton et notre identité, c'est qu'on parle à moitié français, à moitié anglais. Le joual est beaucoup moins anglicisé que le chiac, même s'il y a énormément de mots anglais qui s'emploient en français québécois en général, d'ailleurs pas seulement joual, hein. C'est aussi un mot qui est souvent employé comme une sorte d'arme, c'est-à-dire que quand des gens un petit peu puristes veulent tomber à bras raccourcis sur des gens qu'ils n'aiment pas, ils vont dire « vas-y, vous parlez joual », comme vraiment d'une façon très, très péjorative. Ça serait probablement intéressant de leur demander de définir de façon très précise ce qu'ils entendent par là, c'est-à-dire donner la liste des critères. C'est un mot qui est peut-être plus employé de façon subjective que véritablement. Si on l'emploie nous en tant que linguiste, on va l'employer en tant que sociolinguiste, pas en tant que linguiste, en tant que sociolinguiste, pour désigner tout simplement des registres de français qui sont considérés comme peu prestigieux à l'intérieur de la communauté linguistique québécoise. Je dirais ça comme ça.
Québécois, est-ce qu'il présente des différences avec l'argot français ou est-ce
que... Oui. Alors, si je commence à parler de l'argot, c'est difficile parce que quand on emploie le mot argot, on l'emploie à toutes les sauces, même ici en France. Il faut savoir ce qu'on entend exactement par argot. Il y a eu une époque où on employait argot, le mot argot, d'une façon très très technique en France pour désigner vraiment l'argot des voleurs, l'argot de la prostitution, l'argot. C'était un mot vraiment qu'on employait pour désigner une façon cryptique, une façon cache, une façon. Oui, cryptique de s'exprimer de la part de classes sociales qui avaient de bonnes raisons de ne pas vouloir qu'on comprenne ce qu'ils disaient. Mais on s'est mis peu à peu à employer ce mot pour désigner un petit peu n'importe quoi. On dit l'argot des jeunes parce que oui, effectivement, des fois, on les entend, on les écoute parler, on ne comprend pas trop toujours ce qu'ils disent. On se dit, oh, c'est l'argot des jeunes. Mais de la part des jeunes, évidemment, la motivation n'est pas la même. C'est pas parce qu'ils ont peur. Enfin, ça peut l'être, mais en général, chez les jeunes, la motivation est identitaire. Ils emploient des façons de parler qui leur sont propres. C'est parce qu'ils veulent montrer leur appartenance au groupe. Ça peut être expressif, c'est une autre fonction de l'argot. Mais à partir du moment où des mots d'argot deviennent compris par tout le monde, pas nécessairement employés par tout le monde, mais compris par tout le monde, parce que vous le savez, la presse électronique, la télévision, la radio, les médias s'emparent très rapidement des mots dits d'argot et leur donnent une diffusion énorme. Bah, à ce moment-là, c'est plus vraiment de l'argot, mais les gens continuent d'appeler ça de l'argot. Donc ça, c'est mon petit préambule sur le problème du terme d'argot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour revenir à votre question, l'argot, c'est quelque chose qui naît dans des sociétés où il y a énormément, une forte densité de population avec énormément de groupes et de sous-groupes à l'intérieur de cette société, ce qui fait que chacun peut avoir envie de se distinguer des autres, etc., etc. Le Québec francophone a été pendant très longtemps une société, on dit chez nous, une société tricotée, très serrée. On est tous cousins-cousines à quelques générations près. Les classes sociales les plus élevées, les classes sociales les plus basses parlent à peu près de la même façon. Et ces conditionnements sociaux ont fait en sorte qu'il n'y a pas tellement eu de place pour qu'on puisse assister à l'émergence de quelque chose au Québec qui serait comparable à ce qu'on a pu appeler l'argot en France. Très très peu. Maintenant, sur les rapports entre l'argot en France et le français québécois, ce que l'on remarque depuis quelques décennies, c'est qu'avec quelques années de retard, les mots qui viennent de l'argot, mais qui se répandent dans le français populaire de France, arrivent chez nous, avec un train de retard, mais arrivent chez nous. Donc quand moi j'étais enfant, un mot comme « dégueulasse », ça n'existait pas. Personne ne disait ça. Mais évidemment, on l'entendait énormément dans vos films, dans les films français. Et aujourd'hui, dégueulasse, si je dis à des jeunes Québécois que dégueulasse, c'est pas un mot québécois, ils vont me regarder comme si j'étais un vieux crouton. Mais ben, tout le monde dit dégueulasse maintenant. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui se sont diffusés. Et moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis parti du Québec. Donc quand j'y retourne, je m'en rends compte de façon encore plus aiguë. J'entends les gens autour de moi et je dis « Hein ?» Vous dites ça, et j'en reviens pas, parce que moi je l'ai appris, j'ai entendu ces mots en France, mais quand je suis parti du Québec il y a 20 ans, personne ne disait ça. Et maintenant les gens le disent. Un mec, pour dire un gars, chez nous on dirait un gars, un mec, mais personne ne disait. Si on avait dit ça il y a 20 ans, on serait fait traiter de français. On serait fait dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi tu dis mec? C'est pas... Maintenant les gens le disent, donc... Il y a eu comme, on dirait que l'Atlantique s'est rétréci, et plus ça va, moins ça prend de temps, j'ai l'impression, pour que ces innovations traversent l'Atlantique.
Question, je ne sais pas si on a le temps, un peu hors sujet. On dit couramment, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, que l'alphabétisation au Québec dès l'origine était a priori plutôt plus répandue qu'en France, et que ça s'est poursuivi. Est-ce que ça a eu une influence, à votre avis, sur...
Oui. Il ne faut pas non plus faire d'illusions sur ce qu'a pu être l'alphabétisation au 19e siècle dans les campagnes québécoises. Hein. Oui, les élèves allaient à l'école 2 ans, 3 ans, comme ça. Souvent, ils avaient devant eux une maîtresse d'école qui n'était pas tellement plus maligne qu'eux. Je ne crois pas que ça a pu avoir une influence énorme, non. J'ai pas de réponse développée à donner à votre question. J'ai jamais réfléchi à ça. Un brûle pour point comme ça. Voilà.
On arrête maintenant ? On arrête ? Ok, ok.
Comment vous faites la recherche du mot dans les passages littéraires ?
On a la chance d'avoir un centre de recherche que j'ai mentionné rapidement, qui est à l'Université Laval, qui s'appelle le Trésor de la langue française au Québec. Et c'est un centre qui a été fondé au début des années 70 du siècle dernier. et ils ont un fichier de 1,5 million de fiches. 1,5 million. Et une bonne partie, quelques centaines de milliers de ces fiches papier sont informatisées et on y a accès libre sur Internet gratuitement, sans mot de passe et tout, donc ça me facilite énormément l'existence quand je dois préparer ce genre de présentation.
Vous avez un logiciel pour rechercher le mot?
Oui, un logiciel très, très simple. Hein. Si j'avais accès à Internet, là, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je pourrais vous montrer en temps réel très rapidement. Si vous tapez TLFQ sur Google, vous allez tomber sur le site richissime du TLFQ. Il y a énormément de ressources en ligne qui, je le répète, sont accessibles gratuitement, sans mot de passe.
Ouais. Il y a une connexion Wi-Fi. Hein,
c'est vrai, merci. Alors, on va vite y aller. Donc, je vais essayer à tout hasard. On va voir ce qu'il me dit parce que je n'ai pas... Non, il faudrait que je sélectionne. Je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Ça devrait apparaître quelque part, là, ici. Réseau. Préférence système. Où est-ce qu'il faut que j'aille, là? Votre technicien qui est si malin, là, il pourrait m'aider, s'il vous plaît? Internet, partage, code time, réseau?
Hein?
Non, normalement, c'est plus simple que ça. J'ai quelque chose ici qui devrait... Ça! Ah ouais, ça! Voilà, pardon, merci. Alors, oups, c'est lequel? Il y a ça, il y a Wi-Fi Hall. Vous pouvez me dire, monsieur le technicien, lequel? Le Wi-Fi Hall, ok. Il me dit, ouais, d'accord, ça a l'air de marcher. Il me redit ça, mais attendez, on va faire TLFQ lexical. Ah, il me dit que je ne suis pas connecté. Bah écoutez, c'est pas, vous ferez vos propres expérimentations chez vous. Ah, voilà. Recherche par mot. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On avait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure dans nos caribous? Là, le problème, c'est qu'on n'a qu'une petite partie. J'ai un problème entre la taille de ce qui apparaît sur l'écran. C'est trop grand pour... et ça, je ne sais pas comment... Mais voilà, Champlain, caribou. La pêche du poisson y est fort abondante au Sault Saint-Louis et de toutes les espèces que nous avons en France et beaucoup d'autres que nous n'avons point qui sont très bons, comme aussi la chasse des oiseaux. Blablabla. Et il vous le met par ordre chronologique, donc vous avez tout de suite la plus ancienne attestation, ici Champlain, 1613. Donc il a trouvé 399 attestations en 4 secondes et 27 centièmes. Voilà. Sinon, bon, vous savez qu'aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez faire des recherches sur Google, recherche de livres, mais c'est pas fiable, alors que là, évidemment, vous savez que c'est fiable, c'est ça la différence. Vous savez que c'est ciblé, ce sont des auteurs dont les écrits sont importants pour l'histoire du français en général et du français en Amérique plus particulièrement.
En France, on n'est pratiquement rien de la littérature québécoise, en fait canadienne, française en général, hormis ce qui s'est fait récemment, enfin disons les 20 ou 30 dernières années. Est-ce qu'il y a éventuellement un projet, serait-il fumeux et très...
Un projet
Je dirais un projet quelconque, enfin un jour, pour faire connaître un peu cette littérature qu'on ne connaît pratiquement pas.
La bonne nouvelle, disons, c'est qu'il y a un certain nombre de facs en France qui ont des centres d'études francophones et qui n'utilisent donc pas que le français, pas que la littérature québécoise, mais les littératures francophones. Donc nous, à Paris 4, bon, moi je ne suis pas littéraire, je suis linguiste, mais évidemment j'ai des collègues littéraires, et on a un centre qui s'appelle le Centre international d'études francophones, où la littérature québécoise, mais aussi antillaise, africaine, etc., est à l'honneur. Je sais qu'à l'étranger, en particulier aux États-Unis ou en Allemagne, il y a aussi des tas de gens qui s'intéressent énormément à la littérature francophone hors de France. À une certaine époque, effectivement, on aurait pu faire un constat très sombre pour la France, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. Je crois qu'il y a de plus en plus de facs en France qui s'y intéressent.
Enfin, le public courant, lui, en général. Moi, Ouais. C'est un Canadien, là, de...
Les anciens Canadiens de... Voilà, j'ai terriblement honte de... Ah, ça ne m'en vient plus, pardon. Oui, c'est un classique du 19e siècle.
Oui, c'est ça. Mais bon, je m'en entendu parler. Et en dehors de Maria Chapdelaine, bon, qui a été écrit par un Français. Bon, puis les,
oui.
Les
mais je vous dirais, c'est une littérature qui est très, très jeune et qui est intéressante depuis pas très longtemps. Hein. Moi-même, québécois, je lis... Gabriel Leroy, que j'aime beaucoup, Antonine Maillet, enfin c'est une acadienne, mais bon, c'est la littérature francophone canadienne, Régent Ducharme, Michel Tremblay, etc. Oui, ça fait peut-être juste 50-60 ans que, à mon sens, à moi, il y a des auteurs intéressants. Avant, ce qui s'est écrit avant, c'est intéressant pour nous linguistes, parce que comme linguistes, bon, tout nous intéresse, mais bon, pour la littérature... Les anciens Canadiens, bah, oui. C'est intéressant pour dire oui, c'est intéressant pour des raisons d'histoire culturelle, je dirais. Est-ce que c'est de la grande littérature ? Bof. Ah non, non, mais c'est, oui, j'ai écrit correctement, si vous voulez, mais bon, disons que si un Français me dit que ça l'intéresse pas, je vais pas, scandaliser, hein ? Bon.
En aparté, c'est que je voulais vous demander si c'est peut-être hors sujet. Hein. Est-ce qu'on a remarqué s'il y avait pas mal de personnes qui peuvent parler, mais lorsqu'on leur demande d'écrire, ça leur semble très compliqué. Il y a un problème
au Québec.
Au Québec.
Ouais, je vais vous envoyer mes étudiants français. Vous allez voir la quantité de trucs qu'ils font. Excusez-moi.
Non, mais
j'ai des étudiants qui sont en master de langue française à Paris 4. C'est catastrophique, et c'est des Français. Hein. Donc c'est un phénomène mondial, ça. Après, c'est parce que je me dis, s'ils sont comme ça en master langue française à Paris 4, comment ils sont ceux qui ont à peine terminé le bac. Bon. Voilà. La régionalisation, non, la régionalité est pas très forte, non. De la même façon que je disais tout à l'heure que d'une classe sociale à l'autre, il n'y a pas tellement de différence. De la même façon, par rapport aux régions, il y a vraiment deux groupes qui sont les Acadiens d'une part, les Québécois avec les extensions vers l'Ontario, etc. d'autre part, mais... c'est pas énorme les différences, surtout parmi les jeunes générations. Bon, autrefois, les Montréalais roulaient leur R, là, on savait tout de suite si quelqu'un roulait son R, qu'il pouvait pas être de Québec, qui était nécessairement de Trois-Rivières en allant vers l'ouest. Mais il y a une sorte de nivellement, surtout chez les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de peine à savoir si quelqu'un vient de Montréal ou de Québec. Il y a quelques chibolettes, comme on dit. Les Montréalais disent « arrête » et « baleine » et nous on dit « arrête » et « baleine ». Autrefois à Montréal on prononçait « âge » pour ce qui s'écrit « age », donc « maquillage », alors qu'à Québec « maquillage ». Il y a quelques petits mots comme ça, mais sinon il y avait très peu de colons à la base. Ils étaient quelques centaines, quelques milliers tout au plus, et ils se sont multipliés, comme vous le savez, comme des lapins. Et avec un taux de reproduction énorme, ce qui fait que finalement c'est le même français à peu près qui s'est diffusé un peu partout. Donc il n'y a pas énormément de différence régionale, non. Même si c'est un pays qui est très grand, mais pour des raisons historiques, des raisons coloniales. Je crois que c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux parce que, comme je disais tout à l'heure à d'autres collègues, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose en français, ils posent un acte politique, ce qui doit être fatigant. Moi, j'aimerais pas avoir l'impression, à chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler tout bêtement ma langue maternelle, j'aurais pas avoir l'impression, j'aimerais pas avoir l'impression que je suis en train de poser un acte politique à chaque fois. Mais c'est pourtant le cas. Hein, pour eux, ils sont extrêmement minoritaires. Ouvrir la bouche pour dire quelque chose en français, c'est pas quelque chose de neutre. C'est quelque chose qui est chargé de signification. Alors ça, moi, à leur place, j'aimerais pas. Mais bon, j'aimerais pas vivre comme ça, mais c'est comme ça qu'ils vivent. Bon, ils sont évidemment tous bilingues. Ils parlent tous beaucoup mieux anglais que les Québécois, parce qu'au Québec, à moins de vivre à Montréal, mais très en contact avec les anglophones, mais à Québec même, moi, je suis de la ville de Québec, on n'entend jamais parler anglais, on est vraiment tous entre nous francophones, donc on est moins touchés par l'anglais, alors que les minorités du Manitoba, par exemple, ils sont très peu nombreux et très anglicisés par la force des choses. Et pour eux, parler français, c'est un acte de résistance. Alors que moi, je dirais pas que c'est un acte de résistance. Moi, je parle français à Québec parce que tout le monde parle français, comme ici. C'est pas un acte de résistance.
On arrête ? Ah, ouais, Denis ?
Alors là, je me bats un petit peu contre une idée reçue. La plupart des linguistes québécois vous ont certainement dit « Oh, mais vous, les Français, vous en avez plein d'anglicismes aussi, c'est juste que c'est pas les mêmes que nous, et blablabla. » Moi, je crois que j'ai peut-être une idée un petit peu plus réaliste ou pessimiste de la situation. Je crois qu'on utilise beaucoup plus d'anglicismes au Québec qu'en France. Beaucoup plus. Mais si vous dites ça à un Québécois, il va s'énerver, il va vous dire « Ah, vous, avec votre pressing, là, et vos histoires, parce que c'est vrai que ça, comme on sait que vous n'avez pas d'excuses, vous voulez, nous, on se dit « On a une excuse, nous, parce qu'on est dans un océan d'anglais, c'est normal qu'on utilise des mots anglais, alors que les Français, ils n'ont pas d'excuses, pourquoi ils en utilisent tant, et c'est pas que vous en utilisez tant, c'est que ceux que vous utilisez que nous on n'utilise pas, on se dit mais pourquoi diable est-ce qu'ils utilisent ferry alors que c'est tellement simple de dire traversier. Mais en fait, la vérité, ne torturez pas vos collègues québécois avec ça, ça va les énerver, mais moi qui suis québécois, je vous le dis, on utilise beaucoup plus de mots anglais au Québec qu'en France, c'est indéniable, indéniable. Mais je le répète, torturez pas. Si vous le dites à des Québécois, ça leur fait mal, pour des raisons de sociolinguistique évidentes. On n'a pas envie de se le faire dire, parce que c'est une douleur. Bon, mais c'est comme ça. Hein.
Oui.
Alors, oui, parce que justement, on s'est souvent donné la peine de trouver un équivalent français. On a essayé comme ça de se gagner cette réputation d'être les grands champions de la francisation. Mais bon, si vous dites un chien chaud pour un hot dog, tout le monde va pouffer de rire. C'est pas possible, un chien chaud. C'est les officines de traducteurs qui ont inventé ça. Personne ne le dit. Si vous dites un chien chaud, tout le monde va rire. Hein? Sí, perros calientes, c'est vrai. Ça marche en espagnol. Ça aurait pu marcher en français québécois ou en français tout court. Il se trouve que pour ce mot-là, ça n'a pas marché. Alors que pour d'autres mots, ça marche très bien. Oui. Chaque mot a son... Alors, ce qu'on voit souvent de la part du gouvernement québécois... c'est qu'il va mettre les trois langues sur le même pied. Le français, l'anglais, l'espagnol. C'est un petit peu pour faire chier les Anglais, les Canadiens anglais. C'est-à-dire, oui, d'accord, le bilingue, parce qu'on s'est énormément battu au Québec contre le bilinguisme, parce qu'on se disait le bilinguisme, c'est le cheval de Troie. Si on admet le bilinguisme, l'étape suivante, c'est l'unilinguisme anglais. Donc on s'est beaucoup battu contre le bilinguisme pour dire non, il faut qu'on soit unilingue français, c'est la seule façon de survivre, le français survive. Et dans des situations, évidemment, et on n'a pas manqué de nous dire « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec les touristes ?» Et puis quand on reçoit des conférenciers étrangers, etc., blablabla. Donc du coup, on a dit « Ouais, bah d'accord, on va mettre l'anglais, mais on va mettre l'espagnol aussi. » Ou alors, quand il y a des congrès, des grands congrès qui réunissent tous les pays des Amériques, donc ça inclut le Brésil, ben là, il y a carrément les quatre langues. On va mettre aussi le portugais en plus. Sinon, dans l'enseignement des langues étrangères, l'anglais pour nous est évidemment langue seconde et non pas langue étrangère. Hein, on fait une heure d'anglais par jour, tous les jours, 5 jours par semaine, tout le temps, depuis tout petit. Mais bien sûr, la première langue étrangère, tout de suite après l'anglais, l'anglais c'est pas une langue étrangère, mais la première langue étrangère, donc, c'est l'espagnol. Loin devant l'italien, l'allemand et toutes les autres. Donc c'est quand même une langue qui est bien, qui a une place enviable au Québec en tout cas. Au Canada anglais, je ne sais pas, mais au Québec en tout cas. Ben, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes intéressés, hein. Vous compensez par la qualité de votre présence, vous compensez la petite quantité.
On se sépare maintenant ?
Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.
Merci beaucoup.